Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Universitaire en action. Tous les dimanches matins, 9h et 10h sur les ondes de CSM, le 89.3 FM. La plus grande radio universitaire francophone au monde. Et en rediffusion, bien entendu, sur les ondes de CFAC, le 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, les lundis soirs, 20h-21h, Soccer Sport. Donc, Wissam Bensta avec vous pour la prochaine heure. Et aujourd'hui, cette semaine, on a un invité spécial, mesdames et messieurs. On reçoit nul autre que Shani Black. Shani Black, c'est l'entraîneur des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières en soccer masculin, bien entendu. Et c'est l'entraîneur champion du RSEQ. On va lui parler, là, c'est une entrevue qui va durer environ toute l'émission. Et ensuite de ça, on va y aller avec nos nouveautés francophones de la semaine ici à CISM et à CFAC. J'espère que vous allez bien. C'est une des dernières entrevues de l'année 2023. On en a reçu plusieurs cette année, des gens dans le monde du sport québécois ou des Québécois qui sont à l'étranger, comme Xavier Jean-Louis qui joue au hockey en Alaska. On a également Chloé Renaud là, de McGill. Tout ça, c'est disponible sur la page Instagram de Sport CISM. On a également reçu Patrimondo, entraîneur des Carabins de l'Université de Montréal, Alicia Comtois, joueuse de rugby, Josh Filion qui joue avec les Wildcats de l'Université du New Hampshire. Tout du bon monde qu'on a reçu. Jean Gounel, Jean Durnick également, le coach des Patriotes de l'UQTR Soccer Féminin, Daniel Patiella qui joue au Vermont. Donc tout ça, c'est disponible sur la page de Sport CISM, tout simplement. Sport avec un S et CISM, SPORTS CISM. Et ça, c'est sur Instagram. Allez, follow. On est rendu à peu près à 56 followers avec très peu de promotion. Mais là, on va commencer bientôt là, peut-être mettre un peu plus de promotion, un peu plus essayer de faire tourner un peu cette page-là pour que vous puissiez voir ce bon contenu. D'autant plus que dans les prochaines semaines, eh bien, je serai du côté de l'Europe et de l'Asie pour couvrir et voir beaucoup de matchs d'événements sportifs avec accréditation ou pas, on le verra. Mais je commence ça le samedi le 9 décembre du côté de FC Porto contre Casa Pia. Donc tout ça va être là et également la semaine prochaine, on devrait avoir l'entraîneur du Verreur de l'Université de Sherbrooke, là, M. Réginbald, qui a été nommé il y a quelque temps, là, qui va prendre les rênes de l'équipe du Verreur de l'Université de Sherbrooke au niveau football, bien entendu, là, football américain. Donc voilà, beaucoup de blabla, mais pour de l'information très utile et importante. Et après ça, ça va être les fêtes. Donc, il n'y aura pas d'émission pendant le temps des fêtes. Et après ça, côté janvier, il y aura des émissions en rediffusion jusqu'à mon retour dans la semaine du 2-3 février. Donc, sur ce, on attaque tout de suite avec l'entrevue du coach champion au Québec au soccer universitaire masculin, Shani Black. Chers auditeurs de CSM et de CFAC, nous sommes avec l'entraîneur des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Shani Black. Comment est-ce que ça va aujourd'hui, Shani?
Merci de me recevoir, Wissam. Ça va très bien. Ça va très bien. Salut à tous tes auditeurs.
Excellent. Donc, on est très content de te recevoir ici. Entraîneur, bien entendu, connu dans le monde du soccer québécois. Et également aussi entraîneur champion du RSEQ. Donc, on va parler de ça. Mais tout d'abord, on veut toujours, comme toute personne, on veut savoir, Shani Black, il vient d'où, il a grandi où, et puis comment s'est passé un peu ces premières années, là, que ce soit en lien avec le sport ou pas?
Écoute, moi je suis né à Trois-Rivières, j'ai grandi ici, j'ai fait mon école secondaire, puis mon collégial aussi à Trois-Rivières. J'ai fait 2 ans à l'UQTR, puis, où j'ai porté justement les couleurs des Patriotes pendant 2 saisons. Donc, je suis pas très bon avec les années, mais c'est de 2006 à 2008. Ouais, c'est ça, 2006 à l'hiver 2008.
Quelle position?
Puis ensuite, je joue au milieu de terrain, arrière central. Donc, okay. Ouais, c'est ça, donc milieu arrière. Et puis, c'est ça, changement de programme. Je me suis dirigé vers l'intervention sportive qui se donne toujours seulement à l'Université Laval. Donc là, j'ai fait le saut là-bas pour faire mon baccalauréat de 2008 à 2011. Et puis, malheureusement, que je dis malheureusement, je continue à travailler à Trois-Rivières, justement, déjà dans le monde du foot. Puis comme j'étais déjà assez bien en place comme adjoint technique et tout ça, je voulais garder mon poste parce que c'est ce qui m'intéressait, en fait, là, dans la continuation suite à mes études. Bien, je voulais continuer dans ce milieu-là. Donc, je faisais beaucoup d'allers-retours, je te dirais. Donc, malheureusement, ça n'a pas été possible de vivre l'aventure avec le Rouge et Or, ou du moins de tenter le coup pour jouer avec le Rouge et Or. Donc, ma carrière universitaire a été très, très, très brève. Mais c'est ça, suite à mon bac, je suis revenu à Trois-Rivières. Puis là, ben, c'est ça, tranquillement, touché à différents programmes, la sélection régionale, sport-études, au niveau du soccer, dans la région. Puis, ben, écoute, c'est ça, novembre 2017, le téléphone sonne parce que l'entraîneur, à ce moment-là, qui est Roch Goyette, a l'intention de quitter potentiellement ses fonctions avec les Patriotes. Et puis, ben voilà, je rencontre la coordination, puis on part avec ce projet-là. Puis, ben voilà, c'est là que ça a débuté. C'est là que ça a débuté. Je ne sais pas, tu m'as parlé d'un peu autre chose que le soccer. Puis là, je t'ai parlé juste en lien avec le soccer, mais c'est un peu ça
Ben,
la petite histoire.
c'est correct si c'est ça, ça sera ça. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir les gens avec qui je fais des entrevues, ils viennent d'où? Donc, toi, c'est Trois-Rivières, c'est
Ouais, c'est
quand
ça. C'est ça. J'ai grandi là, ouais. J'ai grandi là. J'ai fait, comme je te dis, un 3 ans là, à l'Université Laval à Québec, mais sinon, ouais, j'ai toujours resté ici.
même. OK, cool. Puis le nom, moi, je me suis toujours demandé quand j'ai vu ton nom, Shani Black, est-ce que c'est-tu anglophone? Est-ce que c'est origine européenne ou c'est juste.
Ouais, c'est
Ça.
des dans les origines écossaises. Donc,
Écossaise,
mon
OK.
ouais, arrière-grand-père paternel qui est arrivé d'Écosse.
OK.
Puis, c'est ça, mais sinon, à la maison, ça parlait toujours français. Puis, c'est ça, je pense que c'était juste de faire fitter un peu, entre guillemets, le prénom avec le nom de famille, là. Donc, c'est ça, mais ouais,
OK.
le nom Black, c'est d'origine écossaise.
C'est sûr que ça marche. J'imagine, est-ce que tu es bilingue? Tu parles bien anglais?
Ouais. Ben, écoute, comme je te disais, j'ai grandi dans un milieu familial francophone, mais mon père parlait beaucoup anglais juste parce que, ben, soit
OK.
regarder la télé en anglais, le sport, whatever. Puis
OK.
oui, c'est ça. Donc, j'ai grandi un peu en côtoyant l'anglais, puis j'ai fait quelques programmes là, d'anglais, enrichi des trucs comme ça au niveau de l'école secondaire. Puis, c'est ça, étant dans un milieu où est-ce que ben, c'est assez bilingue, j'ai toujours gardé mon anglais, on va dire, actif. Donc, ouais,
Oui.
je me débrouille assez bien dans les deux langues.
Excellent. Puis tu t'en as parlé un peu, mais la passion du soccer, tu y as joué? Comme beaucoup évidemment d'entraîneurs. Est-ce que cette passion pour le soccer, ça vient de la télé, ça vient de tes parents, ça vient de...
Non, écoute, puis ça, c'est une drôle d'anecdote dans le sens où tu vois, mon père et mon grand-père étaient deux excellents joueurs de hockey.
OK.
Mon grand-père, d'ailleurs, dans le temps des six équipes dans la Ligue nationale, il a fait le camp du Canadien. Malheureusement, pas été retenu, mais bon, ça te donne un peu une idée, là. Puis c'est ça, moi puis mon frère et moi, on n'a jamais touché à du hockey organisé de notre vie. Mais on a touché à beaucoup de sports, par contre. Donc, évidemment, soccer parmi ça. J'ai joué mes 5 ans à mon école secondaire aussi au football américain, fait beaucoup de ski alpin, des trucs comme ça. Donc, on a touché un peu à tout. Puis, ben, c'est ça, écoute, à la fin de mon secondaire, j'ai hésité au niveau du collégial à embarquer vers le football américain ou le soccer.
OK.
Puis, ben, écoute, le choix a été de jouer au soccer finalement. Puis, à partir de là, on dirait que tout s'est enclenché. Où est-ce que là, j'ai commencé à coacher un petit peu plus sérieusement. J'ai eu envie c'est ça, de jouer dans un niveau un petit peu plus relevé, ce qui n'était pas le cas plus jeune. Donc, écoute, c'est un choix qui, à première vue, est un peu anodin. Où est-ce que tu fais juste choisir quel sport tu vas faire au collégial? Mais finalement, ben, écoute, voilà, je
Ouais.
fais ça dans la vie. Donc, c'est ça, l'anecdote est quand même intéressante. Puis, on ne saura jamais. Mais si le chemin avait été différent, c'est ça, on peut se poser la question ce qui serait
Oui,
arrivé.
peut-être tu serais
Mais
pas là
voilà, non,
aujourd'hui.
c'est ça. C'est ça, exact. Non,
Puis, le hockey, est-ce une raison pourquoi vous n'avez pas touché trop au hockey? C'était-tu...
Non, ben écoute, on a toujours joué là, la petite patinoire de quartier, aller jouer pour le plaisir, là, puis régulièrement, je te dirais, mais non, je n'ai pas vraiment d'explication. Nos parents, ils ont été super là-dedans, dans le sens où personne n'a forcé à aller vers un sport ou un autre, c'est
OK.
un peu notre choix. Puis, ben, comme je te disais, là, on a fait beaucoup d'autres sports, mais pas au hockey. Donc, il n'y a pas de
Oh,
raison particulière vraiment, non.
OK, cool. All right. Très bonne entrevue, Monsieur Shani Black. Donc, on l'a mentionné, parcours d'entraîneur, tu as passé par le sport-études, après ça, l'universitaire. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport à ça?
Ben écoute, belle expérience récemment là, avec l'équipe du Québec aux Jeux du Canada à Niagara Falls l'été dernier,
Oui.
où on a été champion national aussi avec la sélection de l'équipe du Québec. Je salue
OK.
d'ailleurs Alex Salvoni, mon collègue. J'étais entraîneur adjoint avec lui, donc c'est ça, une belle expérience. En plus, qui a abouti avec le bon résultat. Puis encore, je peux peut-être te partager une petite anecdote vite fait. Là, on était, tu sais, le tournoi, tu vois, était juste en marge du début de la saison universitaire. Puis l'année dernière, on a fait notre camp d'entraînement en France. Donc, tu vois, nous, on planifiait, bon, avec mon adjoint au niveau des Patriotes, tout le départ et tout ça. Donc, les préparatifs très d'avance parce que je quittais pour Niagara Falls avec l'équipe du Québec pour les Jeux. Et puis, ben dans le scénario où on va jusqu'au bout avec l'équipe du Québec, il fallait que je parte quasiment directement de Niagara pour aller à l'aéroport pour partir pour Nantes. Puis, ben écoute, ça a presque été ça. C'est-à-dire qu'on a remporté la finale, on a fait la route de nuit. Ma copine a été super d'ailleurs, elle m'a accompagné là-bas pour me permettre de prendre une petite sieste là, sur la route entre Niagara et Trois-Rivières. Je fais des bagages rapidement, changer de valise, puis de tracksuit. Puis on est reparti pour l'aéroport pour décoller pour le camp d'entraînement avec les gars pour la France. Donc, c'est ça. Dans le milieu du foot, comme il y a plusieurs structures, plusieurs compétitions souvent qui se chevauchent, ben, la
Oui.
réalité, c'est celle-là. Donc, ça a été des super expériences. Pas beaucoup de nuits de sommeil dans ce mois d'août-là, mais écoute, si c'était à refaire, je ferais ça demain matin, c'est certain.
Ouais, ben c'est ça, c'est ton purpose, comme on dit
Ben oui,
en
c'est en plein
anglais.
ça.
C'est
En plein ça, yes.
génial. J'étais pas trop familier avec ça, là. Je me focus beaucoup sur le sport universitaire, mais ces compétitions-là, ici, les Jeux du Canada, les Jeux du Québec, évidemment, c'est toujours
Ouais, super
intéressant.
expérience, ouais.
Mais c'est
Ouais.
pas du tout médiatisé, en fait. Ça l'est pas beaucoup, en fait. Je devrais pas
Non,
dire
t'as
pas du
raison.
tout. Mais ouais. OK. Puis maintenant, quel style d'entraîneur est-ce que tu es? Est-ce que t'es, parce que moi, je t'ai vu sur les lignes de côté, tu es tout le temps calme, tu cries pas, tu as l'air d'être un entraîneur qui est beaucoup dans le dialogue, dans la communication. Est-ce que je me trompe ou j'ai mal vu?
Bon, écoute, faudrait demander à nos étudiants athlètes, aux membres de l'équipe, peut-être qu'ils pourraient te répondre mieux que moi. Mais écoute, si j'avais à me décrire, je pense que je suis content que tu ailles vers ça parce que on est vraiment beaucoup dans cette idée-là d'ouvrir, on va dire, des canaux de communication qui sont efficaces, autant à l'intérieur du staff qu'entre le staff et les joueurs, puis qu'entre les joueurs aussi eux-mêmes, où est-ce que tout le monde devient part of the solution, si tu vois ce que je veux dire. Où
Oui.
est-ce que tout le monde est ouvert au dialogue, autant à le recevoir qu'à l'émettre, en autant que, ben c'est ça, que les choses soient bien dites et que ce soit constructif. Mais on est beaucoup à essayer de créer cette dynamique-là entre les différentes personnes, comme je te disais, peu importe que ce soit un étudiant athlète ou un membre du staff. Ben écoute, je suis content que c'est ce qui ressort de ta perception d'un point de vue extérieur parce que, ouais, je te dirais que c'est beaucoup centré sur ça, centré sur l'échange, sur la discussion. Que tout le monde sent qu'il y a sa pierre à l'édifice à amener finalement là,
Oui.
dans le projet avec l'équipe. Ouais.
Exactement. Donc, c'est ça que je voyais. Ça semble être. En tout cas, on va y revenir tantôt, mais ça n'a pas été toujours facile quand je vous ai vu au CEPSOM. Mais cette année, il s'est passé des choses. Donc, on va en parler
Tout
dans
à
quelques
fait.
minutes. Maintenant, j'aimerais parler, petite parenthèse, je ne sais pas si tu veux en parler, mais Gabriel Balbinotti. Wade Harper, il n'était pas là toute cette saison. Puis quand il était là la saison dernière, c'est-à-dire qu'en 11 matchs, il a marqué 14 buts, le meilleur buteur de
C'est
loin du
ça.
circuit, et trois passes
Exact.
qui en fait presque le meilleur passeur. Quand vous voyez qu'il se blesse et puis vous vous rendez compte qu'il ne sera pas là pour toute la saison, c'est quoi, votre réaction en tant que membre, du staff des Patriotes?
Écoute. Gabriel, en plus, en amont de cette saison-là, avait fait beaucoup, beaucoup d'efforts par rapport à son leadership dans l'équipe. Là, je me permets de reculer même un petit peu plus loin. Tu vois, Guillaume Pianelli, qui était avec nous, qui a été vraiment un leader dans ce groupe-là dans les dernières saisons, a signé à Valor suite au draft de l'année passée. Et puis, bon, Guillaume quittant le groupe, Guillaume était le capitaine de l'équipe à ce moment-là, puis c'est lui qui exerçait beaucoup de leadership, je te dirais, dans la saison précédente. Donc, il y a un leadership qui allait être à définir puis à être trouvé finalement avec le départ de Guillaume. Puis, ben c'est ça, Gabriel a pris des grosses bouchées sur ça. Puis, je te dirais, je remonte même à l'été, là, où est-ce qu'il se préparait un peu à avoir ce rôle-là et ainsi de suite. Puis, il est arrivé vraiment dans une forme physique et mentale top comme je l'avais à peu près jamais vu. Puis, c'est ça, il a amené beaucoup ce. ce leadership-là dès le début du camp d'entraînement. On a senti qu'il était différent par rapport à ça, puis qu'il avait envie de prendre ce rôle-là, puis de prendre peut-être cette pression-là de plus sur ses épaules pour l'équipe. Donc, je ne te cacherai pas, ça a été clairement une déception énorme pour le staff, mais aussi le groupe de joueurs, tu sais, qui voyaient ce gars-là qui avait pris, comme je te dis, un rôle qui n'était pas nécessairement le sien dans le passé. Donc, c'est certain qu'il y a une déception, mais un peu pour faire le pont avec ton autre question, avant, on est, comme je te disais, beaucoup dans la communication, mais aussi à focusser, à mettre notre attention sur ce qu'on contrôle. Puis à partir du moment où ça, bon, c'est arrivé parce que c'est arrivé dans une séance d'entraînement, là, trois ou quatre jours, je pense, avant le coup d'envoi de la saison. Ben écoute, le discours autant entre nous dans le staff qu'avec le groupe de joueurs, c'est de dire, bon, il faut regarder en avant, puis voilà, aller puiser dans nos ressources. Tu parlais du nombre de buts qu'il a marqué. Au total, tu vois, si on inclut les séries, championnat canadien, c'est 17 buts l'année passée, Gab. Donc, c'est 17 buts qui n'allaient pas être, en tout cas, qui n'allaient pas être à son actif cette saison. Donc, comme je disais, l'expression que j'ai utilisée, c'est puiser dans nos ressources, ça allait devoir être d'autres gars qui allaient devoir contribuer, puis on devait trouver des solutions pour ça. Puis, si je peux me permettre, même, tu vois, dans les matchs où Balbi n'a pas joué l'année passée, on n'a marqué aucun but. Donc, ça aussi, je te dirais, comme statistique, c'est assez intéressant à voir. Tu vois, il a été suspendu un match en saison régulière. Donc, tu as parlé de 11 matchs tantôt. Donc, le match pour lequel il n'est pas disponible, on ne marque pas dans ce match-là. Et puis, ça a été le cas aussi dans le quart de finale, là, tu vois, contre Cap-Breton au championnat canadien, où est-ce qu'il était aussi suspendu. Donc, écoute, c'est des chiffres qui sont un peu plates à ramener, mais tu vois, ça nous a beaucoup conscientisés à dire, OK, il va falloir trouver des solutions pour avoir du succès. Puis, écoute, les gars ont répondu de vraiment de brillante façon. Des joueurs qui se sont levés, puis à différents moments, c'est ça, dans la saison, sont venus contribuer offensivement pour venir chercher des résultats. Et puis, ben voilà, on connaît la suite de l'histoire. Une saison, je te dirais, par contre, en dentier, en roller coaster un peu, on a une fiche moyenne, j'ai envie de te dire, mais quand vient le temps, bon, de monter en puissance, j'ai envie de dire, sur le dernier droit, on a obtenu les résultats qu'on voulait. Donc voilà. Je me suis promené un peu, mais je pense que j'ai répondu à ta question.
Oui, très bien répondu. C'est ça, cette saison, 12 matchs joués, 6
Ouais.
victoires, 5 défaites, un match nul. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus. C'est pas mal raisonnable par rapport aux équipes qui ont fait les séries, sauf Montréal qui était vraiment au-dessus,
Non,
là.
non, c'est ça qui était détaché. Exactement, exactement. Puis tu vois, depuis 2018, c'est notre pire fiche. En 2018, on finit avec 18 points et on ne fait même pas les séries. Ça a donné une idée de la parité de cette année dans le réseau. Donc, cette année, on se retrouve à 19, puis on termine deuxième. Donc, c'est fou de voir d'une année à l'autre à quel point ça peut changer en fonction de la parité, comme je te disais, dans les résultats, ce qui était vraiment le cas cette année, là, dans le réseau universitaire, du moins dans le RSEQ. Ouais.
Puis, vous avez mentionné tantôt, on se tutoie ou...
Absolument, oui,
Ah,
plaisir.
parfait.
Ouais.
Tu as mentionné tantôt que ça s'est passé à l'entraînement. Est-ce que c'était une action lui seul ou c'était un contact?
C'est tout seul, une talonnade.
Ah oui.
Ouais, donc ça peut pas être plus bête que ça, dans le sens où c'est ça, bad luck, complètement, bad luck.
Bad luck. OK.
Ouais,
Bon,
ouais,
donc c'est assez clair, hein,
ouais.
ça fait
Ouais,
le tour.
puis
Et
c'est ça. Puis
oui,
comme je
vas-y,
suis,
vas-y.
ben, rapidement, c'est qu'en plus, il était vraiment dans une très, très bonne condition physique. Comme je te dis, c'est ça, vraiment bad luck. Il était bien échauffé, tout ça. Donc, on se l'explique encore mal aujourd'hui, surtout d'une blessure de cette gravité-là. Voilà.
Ouais, c'est la malchance. Est-ce qu'il
Voilà.
était déçu que en fait que l'équipe gagne sans lui ou il était content pour l'équipe? Est-ce que
Non, ça, il s'est toujours rallié au groupe. Il a tenu, tu vois, à être non seulement présent tout le temps, il était sur le terrain à toutes les séances, à donner un coup de main aux attaquants. Comme je te dis, il s'est vraiment mobilisé en termes de leadership, Gabriel, depuis. Je parle de jusqu'à l'été dernier, mais ça doit remonter même avant ça. Mais il a vraiment, vraiment voulu s'investir à fond. Sa blessure, ça l'a, honnêtement, moralement, ça a été extrêmement difficile. Par contre, il a été présent avec l'équipe du début à la fin, malgré ça. Donc, non, il a vraiment été présent. Donc, oui, content. C'est certain qu'il y a une partie de lui, c'est un compétiteur, il y a une partie de lui qui se dit, à des moments où c'est plus difficile dans la saison, on aurait eu envie de faire la différence puis de participer, bon, comme joueur, évidemment. Mais non, non, il a toujours été derrière les gars, il a toujours été positif avec tout ça. Puis évidemment, très content que l'équipe ait eu du succès comme ça dans la saison. Après, voilà, c'est partie remise.
Oui, exactement. Puis, c'est ça, il faisait, selon ce que je comprends, il faisait les déplacements avec vous, puis tout ça.
Toujours,
Fait que c'était.
toujours.
C'était un joueur aussi qui a déjà fait l'Académie du CF Montréal, si je ne me trompe pas, là.
Ouais, beaucoup d'expérience pro. Tu vois, avant l'arrivée de Rémi Garde, même, il est parti avec l'équipe première à l'entraînement. Il fait un passage aussi au Ottawa Fury avant l'arrivée de la CPL.
Ouais.
Donc, c'est un gars qui a, il a vraiment de belles expériences pro. Ben voilà, c'est ça. Il a décidé d'aller vers le chemin universitaire parce que pas nécessairement de débouché, je te dirais, mais oui, c'est un gars avec un super background.
Ouais, c'est excellent, ça l'en prend comme ça.
Tout à
Ça
fait.
fait rêver les plus jeunes. Je suis sûr que là-bas, là, à Trois-Rivières, il doit y avoir des enfants puis des gens qui demandent des autographes puis des trucs comme ça à certains de vos joueurs, là.
Ah, quasiment, ouais. Puis comme tu
Ouais.
disais, puis comme on parlait off the record là, avant le début de l'entrevue, le milieu universitaire regorge de gars comme ça,
Oui.
qui gagnent à être connus, de gars qui ont pris un chemin de ne pas tout mettre leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire de venir jouer dans un haut niveau tout en leur permettant de compléter un diplôme de cycle supérieur. Mais beaucoup de ceux-là sont des gars qui ont cogné à la porte du pro souvent, puis qui ont choisi de se rediriger. Puis je parle pas juste avec notre équipe aux Patriotes, mais dans le réseau complet, on voit des noms là, qui sont des gars qui ont été sur des listes d'équipes nationales, U15, U17, des gars qui ont touché à du milieu pro. Donc, ben, comme on disait, c'est ça, avant l'entrevue, ça gagne, je pense, vraiment être connu. Mais oui, effectivement, les partisans qui viennent nous voir à Trois-Rivières ont un peu leur préféré, puis certainement que Balbi en faisait partie là, quand il était en uniforme.
Exactement. Puis c'est ça, j'en parlais avec Pat Raimondo, là, juste pour boucler là-dessus. Il l'avait dit aussi lui aussi, c'est que certains de ses joueurs précédents, que honnêtement, il aurait pu jouer en Europe s'il y avait contact par-ci, contact par-là. T'sais, tout
Tout à fait.
est. C'est des joueurs de très bon niveau, là, je veux dire. Quand j'amène
Absolument.
ma copine ou des amis voir des matchs, je leur dis, là, moi, je joue au soccer quand même niveau depuis très longtemps, mais jamais dans 100 ans, je pourrais jouer dans un 11. Universitaire, le niveau est juste trop élevé. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Tout le monde contrôle qu'est-ce qu'il y a à contrôler, puis c'est du haut niveau.
Ouais, ça c'est très animé, ça court beaucoup. C'est un championnat qui, c'est ça, la condition physique des athlètes est vraiment top. Donc c'est ça, c'est ouais. Comme tu dis, on est loin de pouvoir intégrer ces alignements-là.
Oui. Donc maintenant, on va y aller par le Graal pour vous, c'est-à-dire votre moment. Un probablement de vos meilleurs moments en carrière de coach, le match contre les Carabins de l'Université de Montréal le 3 novembre au CEPSUM. Vous allez là-bas. Tout d'abord, qu'est-ce que vous dites à vos joueurs avant le match? Parce qu'il y a l'historique. L'année dernière, ils vous battent en finale, si je ne me trompe pas, dans un match un peu controversé, avec le carton rouge d'ailleurs à Balbinotti. Je vous avais parlé à ce moment-là. Là,
Exact.
vous êtes de retour. Ça ressemble à quoi un vestiaire universitaire avant la finale comme ça dans un match?
Ah, écoute, c'est pour ces moments-là qu'on fait tout le reste. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Puis tu l'as bien dit, il y a beaucoup de gars qui ont l'année 2022 encore sur le cœur. Donc certainement que c'est peut-être une motivation de plus. Puis tu vois ce qui nous guette toujours quand on est dans ce rendez-vous-là, puis c'était la même chose l'année dernière, mais écoute, les gars ont été irréprochables là-dessus, puis je suis convaincu que du côté des Carabins, c'est la même chose. C'est que le format de compétition fait que c'est rare, hein, que tu vas jouer une finale, puis qu'après une finale, même si tu perds, tu as encore du foot à jouer. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que nos deux équipes étaient qualifiées pour le championnat canadien.
Oui.
Donc, il y a très peu de sports puis de formats de compétition qui disent OK, tu joues une finale, puis après ça, ben, même si tu perds, tu continues. Donc, il y a un peu de ça que nous, évidemment, dans la semaine, dans la préparation, l'objectif, c'était le titre provincial. Et après ça, on mettra nos yeux sur le championnat canadien. Mais c'est pas parce qu'il y a une qualification d'assuré qu'on prend quoi que ce soit à la légère. Comme j'ai dit, ça a été évidemment la même chose pour les Carabins, je suis convaincu. Donc, non, beaucoup de, je te dirais, très serein, très calme, mais focus on task dans le vestiaire. Donc, les gars étaient très. C'est ça, concentrer à revoir les slides d'avant-match, à discuter entre eux sur des petites choses. On affronte une équipe invaincue. Hein.
Oui.
C'est ça, donc le défi était de taille certainement. Par contre, même si, bon, c'est deux défaites dans la saison régulière, ça a été deux matchs vraiment, deux super matchs de foot. Puis à chaque fois avec Pat, on va se voir à la fin parce que, écoute, c'est un régal de regarder ces matchs-là. Tu parlais de haut niveau, mais c'est vraiment de toute beauté la vitesse à laquelle ça joue, la qualité des joueurs, autant du point de vue collectif qu'individuel. C'est ça, c'est vraiment super d'avoir l'opportunité d'être entraîneur dans des matchs comme ceux-là. Maintenant, c'est ça. Comme je te disais, comme tu m'as posé en fait plutôt comme question dans le vestiaire, c'était d'une certaine façon, je te dirais assez calme, mais très, très, c'est ça, motivé et focus, comme je te disais. Donc,
OK.
c'était pas mal ça l'ambiance. J'ai envie de te dire autant staff que les joueurs. Puis, mais voilà, la préparation a été bonne de leur côté. Là, je suis convaincu de A à Z. Puis, on sentait qu'on était prêts, nous aussi. Après, c'est des faits de jeu. Hein. Dans des matchs comme ceux-là, ça peut être des tout petits
Oui.
détails qui viennent, c'est ça, qui viennent faire la différence.
Est-ce qu'il y a, comme on voit des fois dans les films, est-ce qu'il y a du gros speech, tout le monde en silence avant de rentrer, ou ça c'est moyen?
Oui.
Oui?
Non, il y a de ça un peu.
OK.
On aime bien avoir cette mise en scène-là un petit peu avec le staff. Là, je te parle pas d'un truc, justement, comme tu disais, à Hollywood, là, mais on aime bien mettre une petite histoire, on va dire, en lien avec le match. Puis, non, ça n'a pas fait exception avant cette finale-là.
OK.
Donc, oui, on a toujours ce moment-là ensemble avant de sortir à l'échauffement avec le groupe, que tout le monde est dans le vestiaire, autant le staff, préparation physique, les thérapeutes du sport, tout le monde est là ensemble. Puis, c'est ça, on a un petit discours là qu'on essaie d'avoir avant. Puis, je te dirais avant la finale, oui, mais avant les 13 autres matchs qu'il y a eu avant ça dans l'année, on fonctionne pas mal toujours de cette façon-là aussi, ouais.
Puis pour une finale comme celle-là, vous, on le sait, là, au RSEQ, tous les déplacements sont en autobus. Est-ce que vous vous déplacez le vendredi même du côté du Sepsum, ou vous vous
Oui,
déplacez
oui,
la
oui.
veille? OK, le
Non, non,
même
non, non.
jour.
Pour des
OK.
déplacements courts comme ceux-là, je te dirais Trois-Rivières, on est loin de tout, mais près de tout en même temps. C'est-à-dire que toutes
Oui.
les équipes au RSEQ, c'est 1 heure et demie de route. Donc,
Ouais.
c'est assez facile. Mais je te dirais, je pense même que, exemple, l'Université Laval va à Sherbrooke ou à Montréal. Je pense qu'ils voyagent le jour même aussi, là, sauf erreur de ma part, là, mais je pense.
Vous arrivez à quelle heure pour un match comme ça?
On vise toujours à peu près 4 h 30, 5 h avant le coup d'envoi.
OK,
Donc, selon le
parfait.
trafic, mais notre itinéraire est fait pour 5 h avant le coup d'envoi.
Parfait. Donc là, ce match-là, bon, on va le dire, là, vous le remportez dans un scénario de fou. 2-1, vous perdez 1-0 avec un but de Loane Lefèvre là, pour les Carabins à la 76e minute. Et avant de vous dire, chers auditeurs, qu'est-ce qui se passe après? Quand vous marquez, vous encaissez ce but-là des Carabins à la 76e minute, qui, un match de soccer, c'est 90 minutes, là, donc les carottes pouvaient être cuites, mettons, et qu'en plus de ça, vous jouez à 11 contre 10, carton rouge de Babacar Ndiaye, en deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous vous dites, tabarouette, encore une fois, on va peut-être perdre contre les Carabins?
Non.
OK.
Non.
OK.
Puis simplement parce que ce groupe-là fait preuve de trop de caractère pendant toute l'année. Donc, tant et aussi longtemps que le temps n'est pas écoulé, que les 3 coups de sifflet ne sont pas donnés, je pense que c'est la même chose, comme je te disais, le reste du staff, les membres de l'équipe, les joueurs. On y a cru depuis le début de l'année. Il y a des scénarios qui nous ont montré qu'on arrive à sortir de situations compliquées. Tu as nommé la blessure de Balbi, c'est l'entrée en matière. C'est comme ça que
Oui.
commence notre saison. Tu comprends? Donc, de l'adversité, on a eu à y faire face un peu à travers un paquet de scénarios puis sous un paquet de formes pendant toute la saison. Donc, non, je te dirais, même si c'est un coup dur, tout le monde y croit. Puis, c'est écoute. Ça aurait pu se passer différemment, puis je t'aurais répondu la même chose quand même. Ça a été le cas, tu vois, dans le quart de finale de championnat canadien contre Cap-Breton. On rentre à la mi-temps, on est 0-2, c'est l'équipe home, on a une foule hostile c'est ça, qui fait un paquet de choses pour nous sortir de notre match. On revient, puis on en met deux. Malheureusement, on perd au pénalty.
Oui.
Mais c'est une équipe qui a fait face à énormément d'adversité toute l'année. Dans cette finale-là, écoute, le résultat, il est en notre faveur, mais je te dirais que. Pour répondre à ta question, si on y croit ou si 100%.
OK.
100%,
Génial.
ouais.
Puis
Ouais.
Cap-Breton, by the way, là, qui est l'équipe championne au Canada, donc c'est quand même un très bon
Ouais.
résultat. Malgré tout, ils ont
Ouais,
battu les Carabins en finale.
exact, exact. C'est certain.
Puis après ça, ben miracle, moi j'étais là-bas, là, puis j'avais un ami ben, qui était en haut parce que moi j'étais en bas, là, où est-ce qu'il y a le média en fait, là, je ne vais pas dire les,
Ouais.
j'étais là.
Ouais.
85e minute, 96e minute, le remplaçant, si je ne me trompe pas, le
Parfait.
numéro 13, Mohamed Ndiaye, qui marque deux buts, mais deux buts incroyables. Parlez-nous de ces moments-là.
Écoute, c'est un moment de grâce, c'est un moment de... Ouais, c'est deux buts de l'année, ou presque. En tout cas, le premier, certainement.
Oui.
Puis le deuxième, tu vois, c'est moins tape à l'œil, on va dire, mais c'est un but de très, très haut niveau aussi.
Ouais.
Dans un scénario comme celui-là, dans un moment où est-ce qu'en plus, comme tu as dit, il entre en cours de match, où est-ce qu'on est réduit à 10. Non, c'est des. Ben, écoute, c'est pour ces moments-là, comme je te disais, qu'on fait tout le reste. De voir, c'est ça, un gars dans un état de grâce comme ça, puis qui réussit des gestes d'aussi haut niveau dans un scénario comme ça, puis qui amène le résultat en plus.
Ouais.
Y a rien d'autre à dire, je pense, hein? Ouais.
Oui, puis est-ce que Mohamed Ndiaye, est-ce que c'est dans votre saison en général, c'était un remplaçant ou un partant?
Écoute, on a eu beaucoup de, j'ai envie de te dire, de rotation
okay.
dans l'effectif, autant au poste d'attaquant qu'à tous les autres postes. On a été très, très amochés par les blessures pendant de longues périodes, voire quasiment toute la première moitié de saison, je te dirais, là. Donc, notre alignement a quasiment changé d'un match à l'autre à tous les matchs.
Okay.
À quelques exceptions près, ouais, non, c'était assez, assez mouvementé de ce côté-là. Donc oui, Mohamed a eu des moments où est-ce qu'il a été titulaire, a fait partie, quand je te parlais de puiser dans les ressources, ben, il a fait partie de ceux qui se seront levés au cours de la saison là, en l'absence de Gabriel. Maintenant, c'est ça, à certains moments, Mohamed a été remplaçant, à d'autres moments, il a été titulaire. Ce soir donné là, ben, écoute, il a été désigné comme remplaçant, mais ça nous a sauvé au bout de l'année.
Le coaching gagnant, comme on dit.
Ah, ben écoute, je ne prendrai pas ce mérite-là, c'est surtout les gestes décisifs. Ben écoute, absolument, on a la main heureuse sur ce changement-là, puis ben c'est certain qu'on est bien fiers de ça quand on peut contribuer, puis qu'on fait les bons choix surtout, qui amènent des résultats au bout de la ligne.
Oui. Puis est-ce que vous étiez, parce que moi j'étais là au match, là, il y avait beaucoup de blessures, des joueurs au sol, les joueurs ont donné toute la saison, il fait froid.
Mm-hmm.
Est-ce que vous vous dites... En prolongation, si on y va là, physiquement, on ne sait pas si on va tenir à 10. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans votre tête?
On prépare. Ouais, ben, écoute, la suite est assez, je te dirais, préparée avec le staff. Je salue le boulot de mes adjoints là-dessus, là, qui, bon, pendant que j'ai le rôle un peu plus d'animer ce qui se passe sur le terrain, ben, eux préparent ces scénarios-là. Si on se retrouve, comme tu dis, à aller en prolongation. Maintenant, je te dirais que rendu à ce stade-là, c'est très, très cliché là, de parler comme ça, mais c'est dans la tête, dans le sens où si on arrive à bien gérer les moments auxquels on fait les efforts, puis que, bon, effectivement, s'il y a des joueurs qui vraiment sont au bout du rouleau, on a des cartouches sur le banc encore, c'est-à-dire qu'on a des gars qu'on sait, hein, qui on a confiance, qui peuvent entrer puis venir faire leur rôle de la bonne façon. Mais je te dirais, non, on n'a pas abordé vraiment ce côté-là de dire, ah, vu qu'on est à 10, on va craquer ou quoi que ce soit. On était prêt à certains scénarios. Puis, ben, écoute, si on continue sur un match nul et qu'on se rend en prolongation, on était prêt à ça aussi. Évidemment, ça n'aurait pas été sans mal parce que, voilà, de jouer à 10, c'est clairement pas un avantage ouais. pour personne. Mais non, c'est ça. Je te dirais qu'on ne s'est pas rendu jusque-là dans notre réflexion. On était prêt pour les éventualités. Puis là, on était assez convaincus. Ben, tu me posais la question tantôt, confiant, surtout que le groupe allait bien répondre puis allait faire face à cette adversité-là.
Excellent. Donc maintenant, Shani, je voulais que tu me parles. Tu m'as parlé au début de la saison, au début de l'entrevue, tu m'as parlé de bilan individuel. Là, on en a parlé tout à l'heure au Cap-Breton. Bon, vous avez été éliminé contre l'équipe gagnante. Puis avant de revenir, excuse, sur le bilan individuel, quand vous allez au Cap-Breton pour participer au championnat canadien, vous allez dans quel mindset? Vous êtes déjà champion du Québec, ce qui est un très gros titre. Vous y allez pour gagner, vous dites si on gagne, mais si on perd, c'est pas grave. Comment ça se passe, l'état d'esprit?
Écoute, c'est sûr que quand tu prends l'avion, tu vas aller au bout. Hein. Les 8 équipes qui vont là-bas vont avec cet objectif-là. Puis, tu sais, tu parlais juste un peu plus tôt par rapport à l'espèce d'esprit revanchard de la finale de 2022 avec les Carabins.
Oui.
L'année dernière, à Kamloops, au BC, on joue Cap-Breton au premier tour encore, en quart de finale. Et ils nous sortent. Donc, il y a cette même état d'esprit-là pour tous les gars qui étaient là en 2022, évidemment. Le résultat est favorable en finale provinciale. Malheureusement, dans le quart de finale, il ne l'est pas. Là, en plus, le défi est de taille parce qu'on affronte l'équipe haute. Puis, je t'en ai parlé vite fait un petit peu plus tôt aussi, mais il y a eu une foule très, très hostile. Qui, écoute, ça fait partie, c'est loin d'être... d'être une critique. Au contraire, tu sais, c'est vraiment pour ce genre de match-là, c'est avec des matchs en jeu comme ça, où est-ce que tu aimes avoir la foule de ton côté quand tu es l'équipe haute. Mais ça a été un, j'ai envie de dire, un défi, malgré le fait qu'on ait beaucoup de gars d'expérience et tout ça. Je te dirais que ouais, je pense que ça a secoué un peu tout le monde, que ce soit à ce point-là, hostile. Après, écoute, quand on est rentré au vestiaire après à la mi-temps, où est-ce qu'on est 0-2, on n'a jamais senti le groupe ébranlé, mais en cours de match, en première mi-temps surtout, on a senti une petite adaptation peut-être à avoir. Mais non, voilà, pour te dire, oui, on est arrivé avec l'état d'esprit d'aller au bout. Puis c'est ça. Les standards maintenant, ce sont ceux-là, tu sais, pour te faire peut-être une fenêtre un peu plus large. Là, c'est 3 participations au championnat canadien en 4 saisons. Bon, 2020, il n'y a pas de saison à cause de la COVID.
Oui.
Mais on est là en 2019, où on remporte le titre national. Malheureusement, en 2021, on est éliminé en demi-finale contre le Rouge et Or en prolongation, ce qui fait qu'on ne se rend pas au Canadien. L'année dernière, puis cette année, on est de retour. Donc, ouais, si tu te qualifies comme ça, après, ben, l'idée, c'est toujours d'essayer d'aller au bout. Donc, c'est ça, je pense que ça répond à ta question. Après, ben oui, déception encore de finale, évidemment. Puis, le format de cette compétition-là, il est cruel. Si tu perds ton premier match, ben, tu joues plus pour une médaille, ton tournoi, entre guillemets, il est fini.
Ouais.
Tu joues pour un classement. Mais non, voilà. C'était ça l'état d'esprit, je te dirais, du groupe.
Puis comme full hostile, c'était est-ce qu'il y avait des insultes ou c'était
Oui, on avait de tout, là.
OK.
On avait de tout. C'était, comme je te dis, encore, je tiens à le répéter parce que c'est important, là.
C'est pas une
C'est aucune même.
excuse.
Où tu as raison, pas une excuse de un, puis deux, c'est pas une critique du tout. Ça fait partie du sport. Puis, c'est ça, ils accueillent cet événement-là, ils ont beaucoup cette identité-là. C'est une très, très petite collectivité, Sydney, au
Oui.
Cap-Breton, où est-ce qu'est l'université. C'est tout petit, c'est une toute petite université. Je te parle un peu plus tôt que nous autres, on a cette mobilisation-là parce que tout est très proche du campus, tout ça. Je te confirme que c'est la même chose là-bas.
Ouais.
Donc, une communauté qui est très proche de son équipe, puis une équipe qui a du succès année après année, elle aussi. Donc non, c'était vraiment autant je te parlais des matchs contre les Carabins qui sont des matchs que, écoute, on se régale. Ça a été la même chose pour ce quart de finale-là. Malheureusement, cette fois-là, le résultat tombe pas en notre faveur, mais c'est ça, on va jusqu'au bout, on va au pénalty, puis après, ben, écoute, sans dire un coup de dé, mais presque.
Oui, c'est là, ça prend les nerfs solides. Il y a un peu de
Un.
chance, un peu de stratégie, du talent.
Voilà, même
Bref.
chose, ouais, tout à fait.
Puis
Tout à fait.
moi, ça me surprend, là, c'est une parenthèse, c'est peut-être pas toi à répondre à la question, mais Cap-Breton, l'université là-bas, c'est une petite université, c'est une petite communauté.
Effectivement.
De ce que je connais, là, je veux dire, j'ai jamais été. Ça me surprend quand même que je m'attendais à ce que le championnat canadien soit gagné par une équipe du Québec ou de BC, une grosse place, pas par une province plus petite, mais ils ont vraiment un bon programme de soccer là-bas, j'imagine, non?
Ouais, absolument, absolument. Tu vois, si on remonte un peu plus loin, puis là, je pense pas me tromper, 2017,
Oui.
c'est les Carabins sont champions, je crois. Ou c'est l'inverse. Bref, 2017-2018, la finale nationale, c'est Cap-Breton-Montréal.
OK.
Les 2 années. Et là, comme je te dis, j'inverse peut-être les années, mais une année, c'est Cap-Breton qui remporte, l'autre année, c'est Montréal. Donc, c'est des candidats à chaque année. En 2019, quand nous, on est champions, ben, la demi-finale du côté de Montréal, ils jouent justement Cap-Breton de leur côté en demi. Mais
Oui.
c'est ça. Cap-Breton est au tournoi annuel le championnat canadien quasiment à chaque année. Je t'en parle un peu plus tôt. Ils nous sortent en quart de finale en 2022. Et puis cette année, bon, même chose. Puis cette année, ils sont sacrés champions. Donc oui, super programme. Recrutent beaucoup à l'international, énormément même à l'international. Ils vont ramener même beaucoup de gars, tu vois, de l'Ontario aussi. Donc dans un recrutement qui est plus bon, à l'échelle nationale et non internationale, mais il y a des gars, tu sais, en Ontario, il y a un paquet d'universités dans le coin de Toronto, tout ça, qui ont des bons programmes de foot. Ils ramènent quand même des gars de là-bas
Ouais.
À venir jouer à Cap-Breton. Donc non, c'est vraiment un powerhouse, là, j'ai envie de te dire, ouais.
Non, mais c'est ça, c'est qu'ils recrutent beaucoup à l'étranger.
Tout à fait,
C'est
tout à
ça.
fait, ouais.
Puis, je sais pas là, si tu veux commenter là-dessus, mais moi, j'en ai parlé à mes amis. C'est peut-être leur logo, là, c'est peut-être le plus beau logo que j'ai jamais vu tous les temps, toute équipe sportive confondue, là. Il est vraiment nice.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, écoute, ça devient une opinion rendue là, mais oui, c'est vrai que
Ouais.
c'est un beau logo. Ils ont un beau trademark aussi. Leur stade est beaucoup, c'est ça, leur couleur. Il y a comme je te disais, une belle identité collective là, avec la communauté là-bas. Donc,
Ouais. Puis, Maintenant, petit, on va sortir un peu du foot. Là, on va aller dans le bilan bientôt. Avant-dernière question, quand vous êtes là-bas, dans ce coin-là, c'est en Nouvelle-Écosse, c'est ça?
C'est ça.
Nouvelle-Écosse. Est-ce que vous avez le temps de sortir un peu, profiter de la ville, visiter, faire du tourisme? Comment ça se passe?
Je ris parce que c'est un sujet qu'on a touché pas mal. Écoute, c'est une ville côtière.
Oui.
Beaucoup de tourisme, probablement pendant l'été, mais rendu à la deuxième semaine de novembre, c'est assez tranquille là-bas.
OK.
Et là, je te dirais, en plus, on a eu beaucoup de jours à meubler parce qu'on a perdu le quart de finale et tu joues le lendemain, ce qu'ils appellent les demi-finales de consolation.
Oui.
Et si tu perds ce match-là, ben, ton tournoi est fini. Si tu gagnes, tu joues le samedi pour le match de 5e, 6e place. Et on perd aussi au penalty contre York le lendemain. Donc là, notre séjour est terminé au niveau sportif. Donc oui, on aurait eu du temps ou on avait du temps pour, comme tu as dit, profiter de ce qu'il y a autour, mais très honnêtement, il y a rien à faire.
OK.
À peu près rien à faire. Ouais. On est allé voir, tu vois, un match de hockey, justement, des Screaming Eagles, je ne me souviens plus comment il s'appelle,
Ouais,
là,
ça
du
se peut, ouais.
Cap-Breton. Donc, on est allé voir un match, justement, ce vendredi soir-là. Sinon, tu vois, le lendemain, c'est le jour du souvenir et là, c'est tout est fermé. Mais quand je dis tout, tout est fermé. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on fait un petit souper d'équipe le soir. Le dimanche, ben écoute, les gars préféraient regarder les matchs justement à la télé, donc les matchs de bronze et de médaille d'or. Donc, ça a été assez tranquille. Donc oui, on aurait eu du temps, mais je te dirais que les possibilités étaient assez limitées là, à ce temps-là de l'année. Donc, ça a été 2 journées très tranquilles. On a meublé un peu en proposant des choses aux gars, mais comme je te dis, les possibilités étaient assez limitées.
Parce que vous, votre billet d'avion est inclus là, il est acheté
Oui.
dans l'éventualité où vous
Oui.
terminez. OK.
Ben écoute, c'est toujours acheté, tu vois. Notre bloc, si tu veux, de billets qui est acheté par le RSEQ, c'est pour arriver le mardi et repartir le lundi. Donc, c'est vraiment des billets qui sont achetés en avance là, pour s'assurer qu'il y a des places sur les vols.
OK.
Ça fonctionne toujours comme ça, ouais.
C'est le RSEQ qui paye, c'est pas le
Non, 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 c'est nous qui payons. C'est juste
OK.
que les billets sont bloqués par le RSEQ, étant donné qu'évidemment, les équipes qui vont participer ne sont pas connues au début de la saison. Pour s'assurer que ces équipes-là aient des places sur les
Ah,
vols.
d'accord, je
Les...
comprends.
Ouais, c'est ça. Les places sont bookées, sont bloquées, mais ce sont les institutions qui sont responsables de payer les frais
OK.
après. Ouais.
Est-ce que les joueurs doivent contribuer un peu? J'imagine que non. Là, c'est tout absorbé par l'université.
100%, ouais,
OK.
100%.
Puis quand vous êtes en tournoi comme ça, la nourriture, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est du resto? Est-ce que vous amenez votre propre bouffe? Vous allez à l'épicerie locale? Comment ça fonctionne?
Ouais, ben écoute, évidemment, on veut placer les gars dans les meilleures conditions possibles. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est beaucoup en fonction, je te dirais, des paramètres sur place. Donc, nous, la façon de laquelle on travaille, c'est qu'il y a un groupe de staff qui part avant l'équipe, donc qui arrive là-bas 1 à 2 journées d'avance pour voir, tu sais, par exemple, on avait déjeuné inclus à l'hôtel, donc voir qu'est-ce qu'il y a d'inclus dans le déjeuner, de quoi ça a l'air la bouffe. Si c'est pas adéquat, ben à ce moment-là, on s'organise en faisant une épicerie, on fait une espèce de buffet, si tu veux, maison là, dans une des chambres du staff pour que les gars mangent des aliments de qualité. Et là, à chacun des repas comme ça, je te dirais qu'on planifie en fonction de ce qu'on a sous la main. Donc, oui, quelques épiceries pour aller toucher, tu vois, salade de pâtes, des aliments qui sont sains. Donc, encore une fois, sur cette formule-là dont je te parlais. Puis, à l'occasion, oui, il y a des restaurants, mais encore une fois, ils sont sélectionnés là, par notre responsable, si tu veux, des opérations là,
OK.
qui planifie toute la logistique de ça. Ouais. Ouais. Donc,
Fait qu'il y a
c'est
pas, il y a...
son nom. Oui, vas-y, excuse-moi, je
Il
vais
n'y a
pas
pas
te
de
couper.
cuisinier, vous n'avez pas un cuisinier avec les Patriotes
Non.
de... Oui, c'est
Il
ça.
y en a qui se convertissent en cuisinier
Oui.
dans la catégorie de toutes tâches connexes, mais non, il n'y a pas de cuisinier ou de nutritionniste qui accompagne. On a une nutritionniste qui nous suit bon, dans l'année et qui répond à nos questions sur justement des détails comme ceux en préparation en lien avec une compétition comme celle-là, mais il n'y a personne qui vient avec nous là, pour exclusivement faire la nourriture. Non.
Il y a pas, moi je pose les questions, j'aime les détails parce qu'on n'entend jamais parler de
Ben
ça,
oui,
là.
ben ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est
Est-ce
bon.
que vous imposez un couvre-feu dans une compétition comme
Oui.
ça? Oui,
Oui,
puis ils
oui.
doivent le, parce qu'ils le respectent.
Tout à fait.
OK.
Ils se comportent vraiment comme des pros. Écoute, après, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais non, non, ils se comportent vraiment, vraiment comme des pros, les gars. Ils sont irréprochables dans ces contextes-là. On a vraiment un bon groupe d'étudiants athlètes là, à ce niveau-là.
Génial. Fait que maintenant, pour bilan individuel, tu en as parlé au début de l'émission. Ça ressemble à quoi le bilan individuel? Chaque joueur est rencontré, qu'il
Ouais,
ait
c'est
joué
ça.
beaucoup ou pas beaucoup, puis tu
Tout
lui
le
dis
monde.
quoi en gros?
Tout le monde, ben écoute, comme je te disais tantôt, on veut donner des opportunités aux joueurs de s'exprimer. Donc, oui, évidemment, nous, on a du feedback à donner, mais on aime en recevoir aussi à travers ça. On fait des suivis également, tu vois, sur tout ce qui est leur rendement au niveau académique. Donc, on regarde ensemble, moi, ce qu'ils en sont au niveau des résultats dans leurs cours pour voir s'il y a entre guillemets, des flags à lever là, pour certains cours. Pour aviser notre personne responsable là, au niveau de l'assistance ou de l'accompagnement académique. Puis sinon, c'est ça, écoute, on fait un retour. Donc, eux, dans un premier temps, nous font un retour sur comment ils ont eu leur ressenti au niveau de la saison. Puis comme tu disais, qu'ils aient joué beaucoup ou pas. On parle un peu peut-être de leur frustration pour ceux qui ont touché moins de terrain. Nous, on leur donne du feedback par rapport à perception. Puis en cours d'année, évidemment, il y en a eu beaucoup. Donc, certaines choses ont déjà été abordées, mais on fait un peu un wrap-up, si tu veux, de tout ça, puis pour préparer la suite. Donc, la saison d'hiver là, qui s'en vient. Qui n'est évidemment pas une saison de même envergure, mais que nous, on va utiliser pour faire une revue, si tu veux, d'effectifs et donner des opportunités à des joueurs qui ont plus ou moins touché de terrain, ben de se repositionner comme ils le souhaitent, entre guillemets, là, dans la hiérarchie, dans le groupe, puis de tenter de conserver leur place pour la prochaine édition de l'équipe aussi. Donc, je te mets ça un peu sommaire, là, mais ouais, c'est des super discussions avec tous les gars. Donc, que ce soit partenaire d'entraînement ou les réguliers dans l'équipe, tout le monde a ce moment-là. Donc, je te dirais que ça me fait une semaine assez chargée, mais
Oui.
c'est toujours un moment important là, pour bien préparer les choses puis remettre les choses en perspective. Que ce soit un joueur qui est cadre dans l'équipe ou un joueur qui n'a à peu près pas touché de terrain, c'est ça. On prend le temps, évidemment, avec tout le monde pour bien positionner tout le monde pour la suite, là.
OK. Et puis là, toi, vacances complètes, c'est quand pour toi? Où est-ce qu'il n'y a rien à faire là? Est-ce que tu en as ou
Non, ça n'existe pas vraiment.
n'existe pas? OK.
De ne rien faire, je te dirais, ça arrive à peu près pas. Puis j'essaie de me discipliner si je pars en vacances avec la famille, de rester loin de mon sel, mais il y a certains moments où est-ce que, puis là, ma blonde va rire en écoutant ça, là, mais où est-ce que je vais me cacher pour répondre à un ou deux emails ou
OK.
à des messages Messenger avec des gars ou des recrues potentielles ou des membres du staff. Mais non, blague à part, je te dirais que c'est à l'année parce que il y a toujours quelque chose à faire dépendamment de la période. Il y a des moments où c'est important. Tu sais, tu vois, au retour du Canadien, où est-ce que j'ai essayé de décrocher un peu, de recharger les batteries et tout ça. Mais reste qu'il y a toujours des petites choses qui vont être en mouvement quand même là, dans ces moments-là qui sont un peu plus morts. Mais non, pas d'arrêt complet. Puis tu disais tantôt, tu fais ce que tu fais par passion. Ben, au départ, si on est dans un poste comme celui-là, ben, il a fallu qu'il y ait cette passion-là qui motive un peu, je te dirais, là, c'est ça, dans la montée dans les étapes qui mènent à se retrouver à être entraîneur universitaire. Donc, écoute, non, je me plains pas. C'est un emploi de rêve. Donc, non,
Oui.
il n'y a pas de vacances, mais c'est avec plaisir que je te réponds comme ça.
C'est toute une job parce que, tu sais, des entraîneurs, moi personnellement, sûr, je n'ai pas les qualifications, mais si je pouvais faire ça, je le ferais. Mais des entraîneurs au Québec qui entraînent et qui gagnent leur vie à 100% de ça, il n'y en a pas beaucoup, là. Fait que toi, tu en es
Absolument.
un. Puis en plus, tu es champion. Fait
Absolument.
que.
Nous sommes champions, mais je
Ben,
prends
c'est
une
ça,
partie,
vous êtes
mais ouais, ça
champion.
vient. Ouais, absolument. Ben, c'est gentil.
Ah, il n'y a pas de quoi. Puis maintenant, dernière petite question. Avant, petite dernière question, là, j'arrête pas de dire avant dernière question, mais c'est parce que j'en ai des questions qui me popent dans la tête. Rapidement, ton effectif, est-ce que l'année prochaine, tu vas être capable de garder la même colonne vertébrale, le même.
Oui. Donc, tu vois, on a seulement deux départs confirmés et deux points d'interrogation. Donc, je te dirais que c'est une équipe qui va avoir quasiment le même visage l'automne prochain. Maintenant, nous, on cherche évidemment le recrutement à toujours améliorer le groupe. Donc, déjà, il y a des démarches qui sont entamées, des confirmations même avec certains étudiants athlètes qui vont joindre à nous. On joue dans nous l'automne prochain. Donc, on veut toujours rester compétitif. Puis aussi, tu vois, un enjeu dans le sport universitaire, bon, tu connais bien, là, mais c'est un sport qui est cyclique. Et on veut le plus possible éviter d'avoir un départ de masse
Oui.
à une année donnée. Tu comprends? Donc, d'avoir 15 joueurs qui quittent le groupe à la même saison, ça, c'est compliqué pour l'année qui suit. Donc, c'est ça, on veut s'assurer d'avoir une stabilité d'année en année en renouvelant l'effectif et en s'assurant qu'on améliore l'équipe, évidemment, le plus possible avec le recrutement et le travail qu'on fait de ce côté-là. Donc, comme comme tu m'as demandé, là, oui, équipe qui garde quasiment le même visage, avec certains profils intéressants là, qui vont s'ajouter potentiellement au groupe. Donc, on espère être encore très compétitif l'automne prochain, ouais.
Qui sont les deux joueurs qui quittent, sûr?
Les deux joueurs qui quittent sont Elias El Arabi et Hugo Raposo. Donc, deux joueurs
OK,
qui sont
Hugo
à leur
Raposo, ça,
cinquième.
je connais le nom, ça.
Ouais, milieu de
OK.
terrain en 6, ouais.
Parfait. Donc maintenant, dernière question, on va parler que de toi. Shani, est-ce que tu as des objectifs personnels? Est-ce que le poste d'entraîneur-chef du Real Madrid t'intéresse? Qu'est-ce qu'il en est?
Écoute, actuellement, où est-ce que je suis, ça me plaît beaucoup. Toutefois, tu vois, ce que j'aime bien, c'est le format de compétition de sélection. Par exemple, la sélection de l'équipe du Québec
Oui.
dans le cadre des Jeux du Canada, qui te permet de garder ton emploi donc actuel, mais de toucher à une expérience qui est très courte, très intense, qui s'échelonne sur une longue période de temps, mais avec des camps isolés, là, bon, de mois en mois, si tu veux, là, plus la compétition s'approche, c'est aux quelques semaines en amont là, de la compétition des Jeux. Donc ça a été une formule qui m'a vraiment plu pour avoir fait avant ça, bon, sélection régionale, Jeux du Québec, tout ça. Bon, l'étape d'après, c'est un peu celle-là. Donc, si tu me demandes objectif ou un rêve, ce serait de toucher une expérience au niveau d'une équipe nationale, que ce soit U15 ou 17, whatever. Je pense que j'ai encore du chemin à faire, des formations à suivre, ainsi de suite, pour arriver à être un candidat pour ce genre d'expérience-là. Il y a tellement d'intervenants de qualité, oui, au Québec, mais partout au pays aussi, que la
Ouais.
concurrence, elle est très, très forte. Maintenant, écoute, tu m'as demandé un objectif ou un rêve, je pense que ce serait ça. Donc, ouais, non, ce serait mon prochain, je te dirais, prochain objectif ou la prochaine expérience que j'aimerais vivre. Ouais.
Parfait, ben écoute, on te le souhaite. Donc,
Merci.
Shani Black, merci beaucoup pour ton temps ici à CSM et à CFAC. Pour ton expertise, c'était très intéressant de t'écouter. Et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à la fin? Est-ce que tu voulais saluer des gens?
Non, mais simplement te remercier toi, puis c'est ça, le temps et les efforts que tu mets à vouloir mettre en lumière ce qui se fait au niveau universitaire. Franchement, encore une fois, off the record, avant l'entrevue, on parlait du fait que c'est très peu couvert, très peu médiatisé, puis à mon avis, ben, comme je disais, j'ai un parti pris, mais à mon avis, ça mérite d'être connu, ça gagne à être connu, le sport universitaire, puis que ce soit le soccer, mais à peu près tous les autres sports qui sont très, très peu médiatisés, excepté peut-être le football américain.
Ouais.
Donc non, c'est vraiment apprécié. Merci d'avoir pris le temps et de m'avoir reçu. Puis ben, je salue encore une fois toutes les auditrices et tous les auditeurs avec plaisir.
Merci beaucoup, puis on va se recroiser là l'année prochaine en automne pour peut-être un autre championnat côté Trois-Rivières. Je vais débarquer chez vous
Yes.
un jour.
Avec plaisir. T'es le bienvenu.
Merci beaucoup.
Merci.
On remercie donc Shani Black d'avoir accepté de faire une entrevue avec nous là ici à CSM et à CFAC. C'est un honneur de le recevoir, l'entraîneur champion du RSEQ. Puis d'ailleurs, je tiens à le mentionner, là, très sympathique, très approchable, facile d'accès. Les gens de. En tout cas, avec mon expérience, là, je peux vous dire que les deux entraîneurs de Trois-Rivières, Durnick Jean. Et Shani Black, là, c'est très, très, très gentil comme personne. Donc, on félicite encore une fois l'Université du Québec à Trois-Rivières pour son titre de soccer masculin. Et également, ben, on leur souhaite une bonne saison pour le hockey masculin universitaire, puisqu'ils sont une des meilleures équipes au pays, là, les Patriotes de l'UQTR. Donc, sur ce, on va y aller en musique tout de suite avec les deux dernières chansons. On va y aller avec Mon Triolet de Nouchou et Au pays des cabots de George Well. Bonne écoute et nous, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Au revoir. C'était Wissem Bensta au micro pour CSM et CFAC.